30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à l'écrivain Jean Lacouture, 1921-2015, amoureux du rugby. Jean Lacouture est né le 9 juin 1921 à Bordeaux, dans une famille catholique. Fils de chirurgien, il fait ses études secondaires chez les Jésuites du lycée Saint-Joseph de Tivoli, puis des études supérieures à Paris. Il est diplômé en lettres, en droit, et de l'École libre de sciences politiques, promotion 1941. En 1969, il soutient une thèse de doctorat en sociologie. Attaché de presse du général Leclerc à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il découvre l'Indochine et y fait ses débuts dans le journalisme, où il rencontre les chefs du Viet Minh révolutionnaire, dont Ho Chi Minh. Journaliste au Monde et au Nouvel Observateur, il est connu pour être un grand biographe. Pour Jean Lacouture, l'art du biographe consiste à laisser des zones d'ombre pour permettre au lecteur de se faire une idée. Ses biographies sont donc engagées et personnelles. On relatera entre autres les biographies de De Gaulle, Mitterrand, Ho Chi Minh, Nasser, André Malraux, François Mauriac, Pierre Mendès France, Champollion. Pendant des années, de 1960 à 1980, il a écrit dans le journal Le Monde sur le rugby, son sport d'élection, sa passion. Il est connu pour ses livres sur le rugby. Citons « Voyou et Gentleman », une histoire du rugby, chez Gallimard en 1993. C'est son livre culte. « Le rugby, c'est un monde », édition La Table Ronde en 2007. « Les règles du jeu », rugby 1845 et 1871, édition Les Quatre Chemins en 2007. « Loi et mœurs du rugby », avec Fabien Galthié, en 2007. Nous relatons son article du 8 septembre 2007 dans le journal Le Monde, à l'orée de la Coupe du Monde qui va se dérouler en France. Son titre, « Mon 15 de rêve ». Il plonge dans ses souvenirs rugbystiques pour inventer l'équipe de France qui battrait à coup sûr les All Blacks et Wallabies les mieux entraînés. Il endosse le rôle d'un sélectionneur intemporel, composant le 15 de France idéal avec des joueurs mythiques de toutes les générations confondues.
Jusqu'à ce jour de 1963, où l'austère Hubert Boeuf-Méry, fondateur et directeur du Monde, qui n'entendait rien aux questions de l'entrée en mêlée et du cadrage débordement, mais qui savait faire d'un journal une image de la vie, m'a proposé de faire alterner dans les colonnes du Monde les reportages sur le tournoi des Cinq Nations avec mes analyses des stratégies du Viet Minh ou du FLN. Le rugby était resté dans ma vie un long rêve d'enfant bordelais, à l'instar des westerns de Ford, de Jules Verne ou des Trois Mousquetaires. Les percées zigzagantes de Max Roussier y alternaient avec les chevauchées de D'Artagnan, les tournées des fabuleux Maoris avec les mésaventures de Porthos, les finales du championnat de France jouées à Bordeaux où je rêvais de voir les agiles bayonnais de l'aviron déborder les robustes frères Herrero de Toulon étaient autant de chapitres ajoutés au père Dumas ou à Jules Verne, D'Artagnan ou Sylvain Bess, le capitaine Grant ou Jean Gallia. Point n'est besoin d'avoir armé un mousquet ou navigué sous les tropiques pour s'imaginer face aux sbires du cardinal ou quelques lieux sous la mer. C'est vous dire le cas que je fais du jeu à 15. J'ai 75 ans de rugby, non dans les jambes, mais dans les yeux et le cœur. Depuis ce jour de 1931, où l'un de mes oncles girondins m'a emmené voir la grande équipe d'Agen de Marius Giral, venue à Bordeaux rosser quelques équipes locales, j'ai vu jouer à peu près tout ce qui s'agite ou s'organise sur une pelouse entre Édimbourg et les Pyrénées. Compte tenu d'une longue interruption de 1940 à 1960 due à la guerre et à quelques séjours et enquêtes au-delà de la mer. De quoi se prendre pour le sélectionneur universel, ou au mieux transgénérationnel, associant derrière la mêlée un ouvreur gascon du temps de Léon Blum à un numéro 9 électeur de François Bayrou. Bref, à la veille de la Coupe du Monde, il est tentant pour un voyeur vétéran, comme moi, d'inventer une équipe de France qui, insoucieuse du temps, mêlant basque de 1936 et catalan de mai 68, serait capable, 80 minutes durant, de tenir tête au All Black de Daniel Carter, quitte, cet innocent exercice accompli, à se pencher sur les compétiteurs d'aujourd'hui. Il n'en est pas moins loisible à tout citoyen, né ou non entre Loire et Pyrénées, d'en proposer un autre pour demain. S'agissant de ce 15 de rêve, associant les amoureux de Mistinguette à ceux d'Audrey Tautou, je ne prétends sélectionner que des joueurs personnellement admirés sur un gazon de Gascogne ou d'Irlande, négligeant donc la plupart de ceux qui formaient dans les années 1950, à Lourdes autour des Ferroprates, la meilleure équipe de clubs que la France ait connue, d'où émergèrent les Michel Cros et Jean Gachassin, qui trouveront place dans ma sélection. Aussi ne faut-il pas négliger Yves du Manoir et Richard Magérus, dont les noms sonnent à nos oreilles comme ceux de Roland, du Chevalier d'Assas ou du Petit Tambour Barra. L'art de la relance. Des porteurs du numéro 15, du temps où l'on tenait l'arrière pour un défenseur, l'ultime sentinelle avant qu'un Fabien Galthié aujourd'hui voie en lui l'attaquant par excellence, j'en ai admiré beaucoup. De la Genet Guiral au bréviste Villepreux. Mais comment ne pas choisir, pour ce poste universel, le grand Serge Blanco, qui fut une décennie durant, celle de la fin du XXe siècle, le meilleur joueur d'Europe. Je n'ai jamais vu jouer le Maori Nepia, qui inventa l'art de la relance. J'ai beaucoup admiré l'Écossais Andy Irvine ou le Gallois J. Perrer Williams, mais Blanco avait sur eux l'avantage de l'imagination créatrice. D'une fournaise dans ses 22 mètres, on le voyait surgir, imprévisible et bondissant, pour une relance vers Philippe Sella ou Jean-Luc Averrousse. Oui, le numéro 15 à travers les âges, c'est bien le biarrot basané au sourire de loup. Au centre de la ligne de trois quarts, qui peut se retenir de convoquer les frères Bonny, Guy-André Boniface, que d'imbéciles sélectionneurs s'ingénièrent à dissocier dans les années 1960. L'ennui, en l'affaire, c'est que pour ne pas séparer le fou du sage, si merveilleusement complémentaire, il nous faut écarter Jean Daugé, probablement le plus grand trois-quarts-centre de la génération précédente et peut-être de l'histoire du rugby français. Mais étant donné la règle que je me suis donnée, il m'est difficile de mettre en balance l'aîné des Bonny, si souvent acclamé, et un Daugé, que je n'ai fait qu'entrevoir à Bègle dans une sélection régionale, à la fin de sa carrière, privé de ballon. Passe à la trappe aussi de merveilleux attaquants, du Toulonnais Marcel Bayette au Catalan Jo Mazo. Aux ailes, et si on sélectionne Jean Gachassin pour un autre poste, un nom s'impose. Celui de Jacques Anthony, qui savait si bien bonifier les ballons que faisait gicler la mêlée bitéroise. Dût-il être passé à l'arrière? C'est tout de même l'ailier d'Isagon qu'on choisira, retenant pour l'autre aile, soit le fringant Patrice Lagisquet, soit Christian Darouille, qui complétait bien les Bonny, ou Philippe Bernard Salle, qui faisait de sa barbiche comme un moteur à explosion, ou encore Philippe Saint-André, dont les Anglais ont fait l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Retenons ce dernier pour notre 15 de rêve. La charnière du milieu. Je suis de ceux qui pensent que c'est de la charnière du milieu que dépend l'excellence d'une équipe. Aligner les Néo-Zélandais Jonah Lomu ou Colin Meads, si les numéros 9 et 10 ne sont pas du même calibre, vous ne battrez pas les meilleurs. Alors, pour notre idéal 15 de France, soignons notre recherche, dont va dépendre l'issue du match parfait. Sur le numéro 9, et bien qu'en plus d'un demi-siècle, j'ai vu introduire ces joueurs merveilleux qui s'appelaient Pierre Danos, Jérôme Gallion, Richard Astre et Fabien Galthié, quel quatuor, il n'est pas question d'hésiter. Pour moi, qui a 12 ans dans les années 1930, ai vu jouer un certain numéro 9 de Villeneuve-sur-Lot qui s'appelait Max Roussier. Il pouvait, il savait, il osait tout faire, plonger, galoper, botter, plaquer. Il jouait ouvreur, arrière, troisième ligne. Il régnait sur le stade. Et, britannique ou pas, tout historien du rugby le retient parmi les monstres sacrés, au même titre que Nepia, Meads, Campeds ou Gareth Edwards, le sorcier gallois qui, 40 années plus tard, me faisait penser à lui. Mais qui situait à côté d'un pareil monstre? Un Jackie Bouquet? Je ne l'ai jamais vu opérer. Un Antoine Labazuie? Le Lourdet, que je n'ai fait qu'entrevoir? Je n'échapperai pas à un choix douloureux, entre deux amis, Pierre Albaladejo, le Dacquois, et Jean Gachassin, le Pyrénéen. Et malgré toute l'admiration que je voue au grand joueur, cirassé et intelligent, à l'incomparable commentateur du jeu qu'est Pierre Albaladejo, la préférence puérile que j'accorde au jeu à la main m'incite à faire appel à Gachassin. On l'appelait Peter Pan. Il faisait scintiller l'herbe du stade. Il aimait le ballon, et nous l'aimions, se farfader. Devant, commençons par les moins lourds. Il est bien entendu que seul Jean Prat fut honoré par les Britanniques du titre de Mr. Rugby. Mais je ne l'ai jamais vu jouer, et en fait de troisième ligne, je ne mets personne au-dessus de Michel Crost et de Jean-Pierre Rive, celui qui fonce et celui qui se défonce. J'ai oublié pourquoi on appelait Crost le Mongol, à cause de sa terrible moustache. Le fait est que je lui ai vu marquer de Twickenham au Parc des Princes des essais mirobolants, mais moins peut-être que ceux qu'il a fait marquer au Bonny ou à Villepreux. Sur l'autre flanc de la mêlée, on calera bien sûr Jean-Pierre Rive, aux cheveux d'or, le combattant, le vaillant, celui qu'on ne voyait jamais à moins d'un mètre du ballon, et qui s'étonnait si gentiment de la ferveur du public, que son casque solaire ait beaucoup fait pour lui assurer l'affection du public, on peut en convenir. Mais ce qui frappait, chez ce joueur, aux mensurations modestes et au maintien discret, c'est l'invraisemblable aimantation qu'il agglutinait à toute dispute de la balle, le talent qui le faisait jaillir d'un mol. Pour le numéro 8, je n'hésiterai pas beaucoup, plus qu'à propos du sorcier de l'introduction en mêlée. Walter Spanghero avait longtemps joué en deuxième ligne, aux côtés de Benoît Legouin. Et puis un jour, à sa demande, les sélectionneurs lui permirent de porter le numéro 8, face au All Black, me semble-t-il. Et ce qu'il réalisa là fit oublier, et ses performances en numéro 5, et ses prédécesseurs, Jean Barthe compris. Il fut le patron et le battant à la fois, secouant sa formidable carcasse à travers le terrain, joueur de balle comme un trois-quarts. Qui n'a pas vu de près les paluches de Spanghero ne sait pas ce que peut être un don de la nature. Devant lui, comment ne pas rappeler le grand Doga, son complice, qui, du temps où il n'était pas permis de propulser en l'air le sauteur en touche, vous cueillait les ballons à la barbe d'un Colin Mitz. Et quel volume de jeu, quelle vitesse de course! J'ai osé citer le grand Dacquois avant le seigneur des deuxièmes lignes, Lucien Mias, le docteur, le sage, celui qui n'aura jamais été jugé digne d'entraîner le 15 de France après l'avoir si souvent mené à la victoire. Mais peut-être le docteur Mias préfère-t-il se consacrer aux malades de Garonne qu'aux grands costauds du Stade de France. Alors devant, mon trio, Vaquerin, Paco Domenech peut surprendre, et Daniel Dubroca fait l'un, et Philippe Dintran fait l'autre. Et pour les épauler, le Pépéroc, et bien d'Hospital, et Cholet qui galopait si vite, et Califano. Bon, j'ai fait un choix, guidé naguère en un domaine où je me sens pas très à l'aise, par mon cher Haroun Taziev qui en connaissait un bout, ayant joué son dernier match en tant que pilier à 71 ans. Mon équipe ne vaut peut-être pas celle que pourrait composer de plus savants que moi. Les souvenirs galopent, les amitiés pèsent leur poids. Tant de joueurs seront, parce qu'ils jouèrent dans un club mal aimé par le sélectionneur, passés à côté d'une carrière fulgurante. Je peux avoir sous-estimé un Codorniou, un Sella ou un Herrero, mais je suis assuré de ne pas avoir surestimé Max Roussier ou Walter Spanghero. Le rêve qui me vient du siècle passé, pourquoi ne pas le prolonger en cette veille de Coupe du Monde, alors que le rugby, s'arrachant à son folklore gallois ou néo-zélandais, va s'installer pour un temps dans la vie de tous les Français à Brest comme à Pézenas? Pourquoi ne pas former un 15, que l'on n'ose plus qualifier de tricolore, depuis que ces messieurs de la Fédération ont décidé de déguiser les garçons naguère revêtus de trois couleurs en un bleu si sombre qu'il semble fait pour qu'ils soient confondus avec les All Blacks, qui ne prétendraient ni contredire ni imiter celui qui enverra au Stade de France un sélectionneur dont la promotion politique ne saurait garantir ni abolir la perspicacité. Rêvons donc au présent qui n'est pas médiocre, et en pensant que le change délicieux qui nous fait associer Blanco à Roussier pourrait être enrichi par les merveilles du présent.
C'est C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.